Merci de nous avoir invités à votre exposition Correspondance indigène. J'aimerais bien savoir d'abord comment est née votre passion pour la Patagonie chilienne, Eric.
Bah écoute, au départ c'est un peu un hasard, c'est au cours d'un voyage en Amérique latine, enfin surtout au Chili, où j'ai commencé à voyager. Comme tu sais, le Chili c'est une longue banque de terre comme ça, donc tu vas soit au nord soit au sud, et moi j'allais vers le sud, et puis il y avait ce phénomène de toujours vouloir aller plus au sud, et c'est comme ça que j'ai en fait découvert la Patagonie avec toutes ces îles sauvages totalement inhabitées et qui m'ont complètement fasciné, quoi. J'y suis allé d'abord en bateau, après en marchant, en rencontrant des gens. J'ai été totalement envoûté par cette région et j'ai voulu connaître un peu plus comment les gens, s'il y avait des gens qui y vivaient. Parce qu'en tant que photographe, j'ai toujours été intéressé par la vie des gens, leur environnement. Et donc j'ai commencé à chercher, j'ai découvert les pêcheurs qui vivent là-bas et j'ai aussi découvert eh ben les deux communautés indigènes qui restent, qui sont les Yagan et les Alakalouf ou Kawashkar, qui sont en voie d'extinction, mais le peu d'individus qui restent s'organisent pour essayer de sauvegarder le peu de leur culture qui est encore là, et aussi pour sauvegarder la mémoire de cette culture.
Qu'est-ce que la photographie vous a permis de découvrir au cours de votre voyage? Qu'est-ce que ça vous a permis de connaître en plus dans cet aller-retour constant entre la France et la Patagonie chilienne?
Pour moi, la photographie, c'est un moyen d'enregistrer la réalité et aussi de graver, de mettre en mémoire un moment de la vie de ces gens, des gens en général. Et bon, moi, je me suis intéressé à ces gens-là en particulier. Donc, c'était une façon de montrer comment ils vivent aujourd'hui en évitant le plus possible l'exotisme et puis ce qu'on attend un peu des Indiens. Surtout quand on est un Européen, il y a tout un fantasme des Indiens où on s'imagine qu'ils ont des rituels pas possibles, très mystiques et tout ça. Et moi, j'ai juste voulu voilà, montrer, bon, ils ont une vie de famille, ils vivent comme ça, des choses très simples. Des situations le plus simple possible, le plus banal, en essayant voilà, de montrer qu'ils finalement ils vivent comme tout le monde. Et moi, j'aime beaucoup la banalité, photographier la banalité de nos vies, c'est ce qui m'intéresse en fait.
Justement, en octobre est le mois de la résistance indigène des communautés américaines et c'est aussi le mois que vous avez choisi pour faire votre exposition. Vous sentez-vous un défenseur de sa cause avec votre témoignage photographique ou vous vous sentez simplement comme un spectateur?
Moi, j'ai pas cette prétention. Je veux juste peut-être apporter ma petite pierre. Si eux peuvent s'en servir, tant mieux, mais je me sens même pas le droit, quoi. Je veux surtout pas avoir l'air justement d'un Européen de plus qui arrive et puis qui dit les Indiens, machin. J'ai juste voulu montrer peut-être mon affection ou le fait que je suis touché par leur destinée. Et c'est une sorte de. C'est un témoignage, mais pas plus. Après, je compatis totalement à leur cause je suis très attentif à ce qui peut se passer, justement par rapport à ce que tu disais, cet anniversaire, effectivement, de quel côté tu te places. Et que, par exemple, pour les Yagan et pour les Kawashkars, la rencontre avec l'Européen, ils ont été victimes, mais presque. Ils n'ont même pas été victimes de tuerie, puisque. C'est le contact avec les Blancs qui a fait que leur culture n'a pas tenu. Tout simplement, la culture des Européens, ça s'est passé au 19e siècle, la rencontre, vraiment. La culture était déjà beaucoup. La culture européenne, enfin, la culture, ce qu'elle apportait de pas toujours génial, était beaucoup trop forte. Ça a été un choc terrible et ces gens-là, ils se sont totalement désagrégés. Ils sont, en l'espace d'un siècle, ils ont disparu, quoi. Au contact des maladies, mais aussi ils se sont totalement dilués dans la civilisation européenne qui est arrivée là.
Et il se considère chilien ou à part.
Moi, j'ai trouvé ces gens-là, contrairement, je pense, aux Mapuche qui se sentent chiliens, mais d'abord Mapuche, c'est les peu de à la Calouf ou Yagan qui restent se considèrent 100% chiliens. Et peut-être seulement ces 10 dernières années, il y a une espèce de prise de conscience que oui, il y a quelque chose qui va disparaître si eux ne prennent pas en main ça. Cette mémoire de la langue, cette mémoire de certains souvenirs que leurs grands-parents ont pu leur raconter, des bribes comme ça de modes de vie anciens qui ont totalement disparu. J'ai trouvé, moi, dans les conversations que j'ai pu avoir, qu'ils avaient envie de le sauvegarder.
Et je vois que finalement, vous avez rencontré et photographié les dernières Yagans.
Ça, c'est une image prise dans un musée à Punta Arenas, qui est donc vraiment dans le sud du Chili, où ils ont mis en scène un vieux canoë que les Yagans utilisaient et un portrait, c'est très bizarre comme ça, posé, une reconstitution de plage avec des galets, un portrait de la dernière Yagan, qui donc s'appelle Rosa de Melicic, un nom un peu yougoslave. C'est rigolo. Et donc, il y a marqué Yagana Pura. Je ne sais pas si tu arrives à lire.
Si, si.
Et donc, elle était considérée comme la dernière Yagana. Quand elle est morte, cette pauvre dame, ça a été elle, Ursula. Il y a toujours une dernière Yagana. C'est très bizarre. Il se passe le flambeau comme ça. Et donc, Ursula, elle est malheureusement morte en 2003.
Et aujourd'hui, il y a une dernière.
Aujourd'hui, c'est sa sœur. Mais sa sœur, ce qui paraît, c'est par son père ou sa mère n'était pas Yagan. Enfin bon, il y a toujours plein de discussions, mais en même temps, on s'en fiche. Quoi.
Parce que se sont mélangés avec les Chiliens.
Ah oui, mais je pense que c'est aussi pour ça l'esprit indien, il est là quand même. Enfin, l'esprit, je veux dire, l'esprit, puis aussi, voilà, de toute façon, on vit dans un monde où on se métisse tous aussi, quoi. Ce qu'il faut que ce ne soit pas dans la douleur. Mais,
et où il y a l'essence de ce style, de cet esprit indien? C'est où vous avez trouvé
C'est difficile à dire ça. Ouais. Très, très difficile. Parce que moi, j'ai trouvé que en Terre de Feu et en Patagonie occidentale, c'est-à-dire la Patagonie chilienne, qui est très peu peuplée, avec un climat très fort, de la nature très puissante, finalement, même les gens qui n'ont pas du tout de sang indien, j'ai trouvé qu'ils devenaient comme on s'imaginait que les Indiens vivaient autrefois, dans le sens la nature est tellement présente qu'ils doivent se plier à son rythme, à sa force. Et enfin, pour moi, c'est plutôt de cet ordre-là, c'est plutôt de l'ordre symbolique que culturel, parce que encore une fois, les Yagans, ils ont disparu, mais comme si la terre finalement reprenait son pouvoir sur les hommes. Qu'ils soient d'origine indienne ou d'origine européenne, hop, finalement, ça les remet, ça fait comme une nouvelle race d'Indiens. Voilà, enfin, ça, c'est un point de vue d'Européen, sans doute, tu vois. Mais moi, j'ai senti ça, que c'était plus d'ordre symbolique, que parce que ces pauvres gens, ils ont plus de. Tu vois, il n'y a plus de rituel. Anne Chapman a enregistré des témoignages de rituels qui se faisaient encore au début du XXe siècle, mais aujourd'hui, aucun ne pourrait encore le reconstituer.